Les fins dernières ce soir seront sur la mort, le jugement particulier, le purgatoire, le ciel ou l'enfer. Je ne traiterai du jugement général et de la fin des temps que dans 15 jours pour coller à la. Au cycle liturgique. Et donc, ce soir, nous ne parlerons, pour ne pas nous disperser et pour arrêter à 21h30, comme nous avons tenu grosso modo depuis le début de l'année, eh bien, donc, nous allons être assez précis. Vous avez donc, je vous ai donné des feuilles que j'ai prises sur Internet tout bonnement pour que vous ayez des références et que vous ayez un papier aussi. Et une bibliographie par rapport au texte du magistère. Je vous ai fait distribuer aussi un petit livret qui est le témoignage d'une âme damnée. Avec une autorisation d'impression de 1964, Niki Lofstadt et une primatur du diocèse de Bayeux, avec une introduction de Monseigneur, une préface de Monseigneur Christiani, qui était un grand spécialiste des fins dernières et aussi de la démonologie et des anges. Vous avez dans ce petit livret le manuscrit de l'enfer, des références théologiques et de saint Thomas d'Aquin et de textes de l'écriture, mais plus particulièrement de saint Thomas d'Aquin. Alors, tout d'abord, la mort. Ce sort est, comment dire, est lié au fait que au péché originel. Je ne peux pas refaire à chaque fois toute le péché originel et l'histoire sainte à chaque main de mes cours, comme j'en ai la tentation. Donc, du fait que l'homme en Adam, en Ève et en Adam, a voulu exister et vivre indépendamment de Dieu et donc de la source de sa vie, le fait que l'Église catholique enseigne de manière claire et nette que cette origine humaine et cette faute originelle est historique et non pas une notion du bien et du mal, mais c'est vraiment historique et c'est le fait d'un premier couple qui donc, en choisissant le péché, aurait dû mourir immédiatement. C'est-à-dire que si vous souhaitez de ne pas vivre, voyez, si vous souhaitez être coupé de la source de la vie qui est Dieu, vous mourrez. Comme, un oiseau qui déciderait de ne plus boire ni manger. Il va mourir. Eh bien, l'être humain, lui, s'il se coupe de Dieu, il est condamné à mort. En soi, s'il était logique, il refuserait même la loi naturelle de la nourriture, de son instinct animal, de son corps, et il déciderait d'exister sans Dieu en brisant toutes les lois de Dieu, dont l'hydratation et la nourriture. Et c'est... En soi, pourquoi garder certaines lois naturelles organisées par Dieu lorsqu'on se révolte contre Dieu? Et donc la peine du péché, c'est la mort. Mais la mort corporelle. Alors, cela est difficile à enseigner de nos jours, mais je vous dis très précisément ce que ça signifie. C'est-à-dire que la mort corporelle est arrivée dans le monde par le péché. Et le péché mortel, c'est le cas de le dire, le péché grave, qui consiste à se couper de Dieu, à vouloir exister sans Dieu. Ainsi, lorsque Dieu a demandé à Adam et Ève pourquoi ils se sentaient pécheurs, puisque auparavant ils étaient nus et qu'ils n'en avaient pas de honte particulière par l'intégrité de leur pensée, c'était naturel d'être nu dans ce jardin d'Éden, dans cette plaine du Tigre et de l'Euphrate où la température devait être excellente, le nudisme étant plus difficile chez les Esquimaux. Mais quelle drôle d'idée pour les êtres humains d'aller habiter dans des endroits où ils ont absolument besoin d'utiliser de leur ingéniosité pour survivre. En soi, voyez-vous, Adam et Ève n'avaient pas besoin de se couvrir, ils vivaient naturellement. Alors, cela fait sourire de penser que c'était un couple véritable, historique, que c'était pas l'homme de Cro-Magnon, ni de Néandertal. Mais, encore une fois, même ceux qui nient l'existence de Dieu, une création intelligente, alors même que l'Église s'exténue à leur dire que les 6 jours, c'est pas 6 jours de 24 heures, mais 6 périodes, 6 grands temps, qu'on peut placer des millions d'années, des milliards d'années s'ils veulent, mais qu'il y a une création par un être intelligent et qui organise les choses, qui organise l'ADN. Et donc le premier couple humain allait avoir des enfants dans la grâce, dans l'amour de Dieu. Et donc c'est la mort a été le fait même d'écouter Lucifer qui leur dit « Vous serez comme des dieux si vous décidez vous-même du bien et du mal ». Alors donc cette mort physique, elle est due uniquement au péché originel. Et le Saint Paul nous l'enseigne d'une manière très claire, en disant justement que la mort est entrée dans le monde par le péché. Donc pour poursuivre sur mes connaissances plutôt que de lire, voyez, si la mort est due au péché, nous ne traiterons pas ce soir directement de tous les péchés. C'est de manière générale que l'humanité est condamnée à mort à cause du péché originel. Même si il n'y aurait que la Vierge Marie, dans son Immaculée Conception, qui n'aurait pas dû mourir, et le Christ, qui est Immaculée Conception aussi. Qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception? C'est le fait d'être en état de grâce et de ne jamais avoir été privé de cette grâce qui est la présence de Dieu dans l'âme. Alors là aussi, je ne vais pas trop développer parce que c'est un peu dur, puisque c'est la question des limbes, c'est la question de la mort des nouveau-nés, de la mort des personnes qui n'ont jamais posé un acte personnel avant de mourir. Et comment connaissent-ils Dieu? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette grâce? Qu'est-ce que c'est que cette lumière surnaturelle, cette présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans une âme qui n'est pas consciente? Qu'est-ce que c'est que cette chose surnaturelle qui est dans l'âme du bébé qui vient d'être baptisé? Si vous voulez, nous l'avons toujours cru. Ensuite, la justification théologique, les mots pour l'expliquer sont difficiles, mais nous l'avons toujours cru. Ce qui fait que la mort des bébés et la mort des personnes qui n'ont pas pu poser un acte personnel et conscient, eh bien, on parlait de limbe, c'est-à-dire de limite entre le ciel et l'enfer, parce que on ne savait pas quel était leur choix. La mort nous libère l'âme du corps. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. La mort, c'est le fait même qu'une la nature humaine soit un composé entre un corps animal et un esprit. En théologie spirituelle, on fait la différence entre l'âme et l'esprit. Je pense que l'esprit, c'est tout ce qui est justement plus spirituel, plus abstrait, plus dans la charité. Et quand on désigne l'âme, ce sont les mouvements de l'âme par rapport aussi en lien avec le corps, avec la mélancolie, la fatigue, la tristesse, la joie, l'exubérance. Mais en fait, moi, j'utilise cette distinction des mots en disant que un esprit, c'est un être qui n'a pas de corps et qui est intelligent et volontaire. Dieu est un esprit qui a toujours existé, il est éternel. Les anges sont des esprits qui n'ont pas toujours existé et qui ont été créés. Et donc, ils n'ont jamais été composés de matière. Ils ont une capacité de comprendre et d'aimer qui est leur nature profonde. Ce sont des esprits. Tandis que les animaux, eux, ont un principe de mouvement qui est particulier, même de la cellule jusqu'à l'animal le plus complexe, et ils ont, au sens large du terme, dans une philosophie, comparaison et par analogie, ils ont une âme. Les cellules ont une âme, les plantes ont une âme, les animaux ont une âme, c'est-à-dire qui les anime, qui font un tout organique. Vous voyez, le chat, contrairement à ce que disent certains philosophes, c'est pas un mouvement mécanique qui fait que le chat bouge et que les cellules sont coordonnées. Il a un principe de mouvement qui est une âme animale. En philosophie, on considère que quand un animal meurt, quand une cellule meurt, quand un microbe meurt, comme une bactérie meurt, son âme est anéantie. Elle est réduite à la puissance de la matière. C'est un amas d'atomes. Mais l'âme ne survit pas. Alors, ça fait de la peine quand on a aimé un chien ou un chat, mais quand vous verrez dans 15 jours la fin du monde et la résurrection des morts, peut-être que certains animaux seront recréés par Dieu pour la joie de leur propriétaire. Mais ça, c'est totalement libre, voyez, puisque les saints sont dans le bonheur de voir Dieu, certes, mais vous avez des personnes un peu trop surnaturalistes qui vont considérer que la vie éternelle et le bonheur et le paradis, c'est de voir Dieu uniquement. Mais il faut savoir qu'on se reconnaît les uns les autres et qu'on vit aussi, qu'on se retrouve, qu'on parle les uns avec les autres. Le Christ est dans la vie éternelle, il est au ciel, il est dans un état de vie divine, et sa nature humaine est plongée dans cette vie divine, et il parle à ses apôtres. La Vierge Marie est au ciel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un nuage ou sur une planète, mais elle parle. Elle s'assied sur un fauteuil rue du Bac. Donc, dans la vie éternelle, on n'est pas dans des fauteuils de cinéma à regarder Dieu. Et ce qui fait que qu'on puisse envisager, avec la nouvelle création et le réornement de la terre après le feu final, qui détruira toute la surface de la terre, même ceux qui seront dans des bunkers à 50 km ou 100 km sous la terre, à mon avis, il doit faire chaud. 100 km sous terre, mais au moins 2, 5, 10 km, ils seront cuits comme dans un micro-ondes à la fin des temps, donc ils survivront pas. Et donc, Dieu, lorsqu'il va réorner la terre, comment il va le faire? Est-ce qu'il y aura des plantes? Est-ce qu'il y aura des fleurs? Est-ce qu'il y aura des fleuves? Est-ce qu'il y aura... La nouvelle création sera plus belle que celle qu'on a connue, donc... Alors je ne sais pas si Dieu va faire de l'art contemporain abstrait ou alors il va faire du naturalisme et de l'académisme, à mon avis c'est plus sur ce point-là. Et pour l'être humain, lui, il a donc un corps tiré du monde animal et un esprit. Et nous avons été créés pour vivre dans cette union. Et il y a quelque chose de très pénible pour nous, c'est la maladie et la mort, parce que même si elle a quelque chose de naturel à cause de notre corps, Le corps étant un composé matériel, il est susceptible de se décomposer. Voyez, il est susceptible de se désorganiser au point de mourir. Quand vous avez une congestion, quand vous pouvez plus respirer, quand vous avez un membre qui se gangrène, quand vous avez une tumeur qui se développe, quand vous avez un accident, quand on peut vous couper la tête, on peut vous couper la main, vous n'avez pas un corps qui naturellement est immortel. Et nous le savons. Et nous avons les instincts des animaux. Nous savons qu'il faut manger. Nous savons qu'il ne faut pas se brûler. Nous savons qu'il ne faut pas se jeter du haut d'un promontoire. Nous le sentons. Le vertige est quelque chose de naturel. Ça peut se contrôler. Il y a des personnes qui n'ont pas trop le vertige, mais d'autres, c'est un instinct naturel que les chats ont aussi, sauf quand ils glissent et qu'ils tombent vraiment très 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 haut. Ils ont beau se retomber sur leurs pattes, ça se passe mal. Voyez. Donc, mais eux-mêmes n'ont pas envie de se jeter dans un trou. Mais bon, leur instinct peut être un peu limité, si vous voulez. Vous avez un chien qui est là sur le bord d'une falaise, il réfléchit, enfin, il sentait qu'il puisse réfléchir, vous voyez. Il n'a pas les causes ultimes, hein. Donc il est là, il est très attiré par quelque chose qu'il voit en bas, voilà. Enfin, c'est rare qu'il saute, vous voyez. Mais notre corps est mortel. Mais notre âme, elle, est consciente de son immortalité. Parce que nous savons que tous les actes que nous posons sont indépendants de la matière ultimement. Nous avons l'imagination comme les animaux, nous avons de l'affection comme les animaux, mais leur affection est assez limitée entre petits et parents. Nous, entre enfants et parents, elle est illimitée parce que nous avons un amour abstrait. On a beau avoir de la mémoire comme les animaux, des images emmagasinées comme les animaux, mais elles sont emmagasinées de manière abstraite et de manière immatérielle, chez l'animal aussi d'ailleurs. L'animal, lorsqu'il rêve, l'animal, lorsqu'il photographie tout ce qu'il voit, ça va dans son âme, c'est pas dans ses neurones. Le cerveau coordonne l'action de l'âme et tout ce qui est instinctif et imaginatif vers le corps. Mais les images ne sont pas dans les neurones. Ils sont dans l'âme. C'est vous dire que les chats, les chiens, les écrevisses, les araignées ont une âme. Mais ce principe de mouvement extrêmement développé que Dieu crée ne survit pas à l'animal. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas conscience de lui-même et il n'a pas de véritable amour. Le chien le plus fidèle a un souvenir extraordinaire de la manière dont vous le nourrissez, dont vous lui parlez, dont vous le caressez. Et sa mémoire est telle qu'un chien qui a été pendant 10 ans avec un maître, si son maître meurt, il ne voudra manger que de la main de son maître et se laissera mourir de faim. Mais ça, c'est l'imagination très puissante de certains animaux et qui font qu'ils ont aussi, ils sont tristes. Vous voyez, parce que l'être cette présence, ils s'en souviennent profondément et ils veulent ils ont une paix lorsqu'il est là. Donc c'est assez beau, hein, de voir la mémoire des mammifères, plus particulièrement. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui apprivoisent des araignées, mais pas des petites, des grosses. Et elles ont une mémoire. Et on peut les apprivoiser. Je ne sais pas si vous saviez qu'on pouvait apprivoiser des araignées. Alors que de manière générale, même sur France Info, ou France Inter, ou France Télévisions, on n'ose pas dire que les araignées sont intelligentes. Mais elles ont suffisamment de mémoire pour avoir une véritable relation avec un homme, avec un être humain. Alors pourquoi je vous plante un tel décor? Mais parce que je me perds toujours dans les détails. Mais c'est pour vous dire que le corps humain est une grande réalité animale, mais l'âme humaine dépasse totalement l'âme animale. Parce que l'âme humaine, c'est au sens propre que c'est une âme. Ça anime un corps, mais c'est l'âme immortelle. Parce qu'elle a une activité abstraite de la vie de la matière. Comme je vous l'ai déjà dit, vous voyez, nous sommes tellement conscients de notre dignité que nous sommes conscients qu'on mange salement. Nous sommes conscients qu'on est sale. Vous voyez, ceux qui ne se lavent pas sont pas des hommes naturels. Ah ben lui, ah ben il est plus là. Nous, on est sophistiqués, compliqués, civilisés. Mais c'est beaucoup mieux de se laver que de temps en temps, comme ci, comme ça. Enfin, non, c'est faux. Les êtres humains se sont toujours lavés. Les êtres humains ont toujours apprêté leur nourriture. Et donc c'est toute cette imagerie d'homme de Cro-Magnon et tout ça qui interfère. Les scouts, lorsqu'ils font un repas avec en mettant des pommes de terre ou avec des pierres et tout ça, ils vivent comme ceux qu'on a pu trouver dans les cavernes, sauf que ceux qu'on a trouvés dans les cavernes, justement, quand ils peignaient, quand ils enterraient leurs morts, eh bien, c'était des hommes comme vous et moi, tout à fait intelligents. Et ils parlaient pas par grognement. Aucune peuplade qu'on a découverte à travers le monde n'était débile et parlait par grognement. Aucune. Mais ce qu'on appelle les primitifs, je vous assure que bon, ils ont une vie sociale. Ils sont parfois cruels, mais sinon ils ont une véritable vie sociale. Ils ont un code vestimentaire, ils ont un code de reconnaissance, de hiérarchie, de famille, de tout ce que vous voulez. On n'a jamais trouvé, sauf maladie. À ce moment-là, hein, l'homme peut être malade, mais l'homme est toujours intelligent, toujours. Hein, c'est ce qu'ils appellent le sapiens sapiens. Et on estime à 10 000, 20 000 ans avant Jésus-Christ, l'outil. Donc ça veut dire que dès qu'il y a homme, il y a intelligence. Et c'est cette intelligence qui nous permet justement de conclure très rapidement qu'il y a une vie après la mort. Et que la maladie et la mort sont pour nous anormales. Il y a une aspiration profonde à l'immortalité chez l'être humain. On n'accepte pas notre mortalité comme on n'accepte pas d'avoir un morceau de nourriture sur le nez ou voilà, on le retire. Vous voyez, vous avez le chien, lui, quand il mange, il fait pas de l'esthétique. C'est seulement après qu'il va se nettoyer, se lécher. Mais je ne sais pas si vous avez vu des animaux sauvages manger. Bon, c'est pas très civilisé. Hein. Ils prennent ni fourchette ni couteau. Vous me direz que nous on avait la fourchette assez tard, mais enfin on savait manger correctement quand même. Tout cela pour vous dire que la religion, que l'existence de Dieu, c'est forcément cette référence que nous avons à celui qui nous a créés. Et la mort est une rencontre avec Dieu. On sait bien que c'est pas normal de mourir. On résiste à la vieillesse, on résiste à la maladie. Et il n'y a que ceux qui désirent voir Dieu par charité ou qui sont moins soucieux de leur maladie et de la mort, ou des personnes un peu cyniques, froides et indifférentes, qui disent « Oh, si je meurs, je meurs hein. ». Mais, voyez-vous, cette réalité qu'est la mort, elle est liée à notre nature spirituelle. Nous n'acceptons pas notre mort. Alors, qu'est-ce que nous dit Dieu de cette mort? Quelle est la peine du péché, la maladie et la mort? Et que ceux qui sont innocents, ceux qui ont peu de péché, participent quand même de la condamnation générale du genre humain. Eux vont tirer vers Dieu ceux qui sont malades et meurent, mais dans le péché. Ceux qui ont une vie pure, ceux qui ont une vie droite et juste, partagent le lot commun de l'humanité. Dieu ne va pas faire de ce monde une véritable horreur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on est là, et si on pêche, hop, on attrape un rhume. Si on en pêche plus gravement, on attrape une pneumonie. Il y a une gradation quand même, hein, dans la peine. Si on veut, comment dire, faire beaucoup de mal, ben on meurt d'un coup. Voilà. Et donc, imaginez, vous voyez là, à chaque fois que vous mentez, ben vous avez, je ne sais pas, une brûlure. Voilà. Un gros mensonge, si toute la main est brûlée, enfin, je sais pas, enfin. Si vous voulez, Dieu ferait une gradation dans les punitions physiques suivant les fautes morales. Vous dites, pourquoi un bébé meurt? Il a rien fait. Et oui, mais c'est parce que ça n'est pas lié à nos péchés. C'est la condamnation générale du genre humain à un rendez-vous avec Dieu parce que nous avons voulu être indépendants de Dieu et que Adam et Ève auraient dû mourir et nous n'aurions pas dû exister. Vous voyez, imaginez que vous aviez un couple qui fasse un grand mal et qui soit dans un pays, pas en France, hein, condamné à mort. Eh bien, ils n'auraient pas d'enfants. Un jeune couple de 20, 22 ans qui, comment dire, qui organise, je ne sais pas, un hold-up terrible, Bonnie and Clyde, mais 20, 22 ans, ils tuent les caissiers, les secrétaires de la banque, le directeur, les clients, voilà. Et ils sont exécutés. Eh bien, il n'y a pas d'enfants. Eh bien, historiquement, et je termine là, sur ça, ce qui est difficile à admettre de nos jours, mais ce qui est la vérité, c'est que Adam et Ève sont un homme et une femme qui ont vraiment existé et qui, du fait de leur péché, auraient dû mourir. Et donc, nous, qui sommes là depuis 6000 ans d'après la manière de calculer d'après la Bible, eh bien, on ne devrait pas être là. Et donc, qu'est-ce qui est une conséquence du péché originel chez nous? Mais c'est qu'on tombe malade et qu'on meurt. Et, autre conséquence du péché originel, il y a un désordre entre notre intelligence et notre volonté pour faire le bien. Car les quatre conditions pour la création d'Adam et Ève étaient l'intégrité, c'est-à-dire que l'âme spirituellement se dominait complètement par rapport à l'intelligence qui lui présentait le bien et le mal, l'intelligence qui saisissait tout ce qui était bon, le présentait à la volonté, et la volonté qui choisissait le bien, toujours. C'est le don d'intégrité. Ensuite, nous étions impassibles, c'est-à-dire que nous n'étions pas susceptibles de tomber malade, et donc notre corps ne vieillissait pas. Et nous étions immortels. Avec la science infuse, mais qui était réservée uniquement à Adam et Ève. Alors quand je vous dis ça, vous dites, mais c'est pas possible qu'on puisse encore enseigner ça. Mais si, si vous voulez, c'est... Parce que Saint Paul, lui, le dit très clairement, que la mort est entrée dans le monde par un seul homme, et que le salut est entré dans le monde par un seul homme. Et qu'on le veuille ou non, on est en 2017, et ce n'est pas un ensemble d'hommes qui nous ont sauvés. C'est un seul homme, uni à la divinité. Historiquement, il n'y a qu'un seul nom par lequel nous devons être sauvés. C'est Jésus. Il n'y a pas un homme juste ou une femme juste en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe. C'était en Terre Sainte. Il n'y a eu qu'un seul homme. Et nous sommes bien conscients d'ailleurs que nous sommes sauvés, enfin que nous sommes conduits par une personne avec l'autorité et la bonté. Nous sommes naturellement attirés par l'unité du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle on termine l'année liturgique par la fête du Christ roi, fin octobre ou la fin des dimanches ordinaires. Mais ce n'est pas une idée, Jésus. C'est Dieu fait homme. Et ainsi, Jésus, passant par la mort, va sanctifier notre mort et va sanctifier la maladie en quelques heures, n'est-ce pas? Parce qu'on va le frapper. On est malade quand on est frappé, vous voyez. Ça fait des contusions, il y a une mauvaise circulation du sang, ça coule trop, vous avez le visage tuméfié, ça va pas du tout. Vous voyez, c'est une maladie pendant quelques heures d'être frappé à mort. Mais la mort elle-même, c'est lorsque l'âme quitte le corps. Voilà donc la mort. Alors, maintenant, nous allons passer au jugement.